Bonjour à tous et bienvenue dans le 18e numéro de Sans langue de bois, votre émission politique sur les ondes de Transistor. La semaine dernière, Thomas vous proposait une interview exceptionnelle de Marine Le Pen. La présidente du Front National répondait sans langue de bois, interrogée sur des questions d'orientation politique, d'économie et même sur des sujets sur lesquels on l'entend peu ou pas du tout dans les médias traditionnels, comme la santé et l'environnement. Un événement à ne pas manquer. Et c'est d'ailleurs Thomas qui, comme d'habitude, vous dévoile le programme de l'émission d'aujourd'hui. Bonjour Thomas.
Bonjour Marie-Ève, bonjour à tous. À la une de l'actualité politique cette semaine, le voyage de François Hollande en Inde. On se rappelle de celui de Nicolas Sarkozy en 2010 et de sa visite au Taj Mahal en compagnie de Carla Bruni. Hollande est-il dans la droite ligne de Sarkozy? Quels enjeux pour la France en Inde? Des questions auxquelles répondra Mathilde Ferrez. L'enquête de la semaine sera consacrée au mariage pour tous, adopté le mardi 12 février par les députés, après 110 heures de débat âpre à l'Assemblée nationale. 110 heures de débat, pourquoi? Examen de ces amendements qui changent la donne et de cette loi qui change la société. Mais comme les députés ne chôment pas après le mariage pour tous, voilà la réforme du système bancaire, autre engagement de campagne de François Hollande. Pendant la campagne présidentielle, il était de ceux qui voulaient mettre au pas la finance. Colin Allier nous dira si tel sera bel et bien le cas avec le texte adopté par les députés le 19 février dernier. Sans oublier, un sujet plus léger en fin d'émission, une histoire de chemise en or. La chronique mensuelle de Jérôme Bastic, Vue d'Europe, consacrée à l'Eurogroupe. Et un éditorial, cette semaine proposé par Thibaut Sardier, en duplex de Paris.
Sitar signé Ravi Shankar, compositeur indien mort en décembre 2012, et son célèbre et immortel Ragapuri Kalyan pour illustrer à la une de l'actualité politique le voyage de François Hollande en Inde.
Un indispensable, un sujet réalisé par Mathilde Ferrez. Bonjour Mathilde.
Bonjour.
Alors les 14 et 15 février dernier, François Hollande a repris la course diplomatique qu'il avait mise entre parenthèses depuis le début de l'année afin de se faire plus présent sur le territoire français.
Tout à fait Thomas. Il s'est rendu pour la première fois depuis son élection en Asie, plus précisément en Inde, accompagné de 6 ministres et d'une soixantaine de chefs d'entreprise. Le jeudi à New Delhi, où il a été reçu au palais présidentiel de Rashtrapati Bhavan, le vendredi à Bombay pour une rencontre avec des patrons indiens.
Accord politique et économique donc, au cœur de ce déplacement, et il faut rappeler que la relation économique avec l'Inde est ancienne et s'exerce traditionnellement dans les domaines de la technologie, de l'industrie spatiale et du militaire.
C'est vrai, mais depuis la signature en 1998 d'un partenariat stratégique, les échanges ont évolué. De plus en plus d'entreprises françaises s'implantent en Inde pour profiter de sa croissance et l'aident en retour à reconstruire les infrastructures qui lui manquent.
Les chefs d'entreprise présents lors du voyage de François Hollande et les projets qu'ils entendent bâtir avec l'Inde sont d'ailleurs, Mathilde, symboliques de cette nouvelle dynamique.
On comptait notamment parmi les patrons le PDG de Dassault Aviation, Éric Trappier. Il est en effet responsable du futur grand accord que la France espère conclure avant la fin de l'année, la vente de 126 avions de chasse de type Rafale à l'Inde. La semaine qui a précédé la visite du président de la République, le chef d'état-major de l'armée de l'air indienne a évoqué une signature de ce contrat avant la mi-2013. L'autre grand contrat en cours est la construction de 2 réacteurs nucléaires EPR par Areva à Jaitapur, à 400 km au sud de Bombay.
Alors ce qui est intéressant, Mathilde, c'est que ces accords économiques en cours entre la France et l'Inde mettent au jour une coopération économique que l'on a tendance, trop souvent, à sous-estimer. On a tendance, en fait, à ne voir que la Chine et à ignorer le mouvement silencieux de l'Inde qui, à terme, pourrait bien rééquilibrer la puissance chinoise.
Oui, dans un article du Monde du 11 février dernier, le co-président du groupe Euro-India, organisation chargée des relations économiques entre l'Europe et l'Inde, indiquait que depuis quelques années se dessine un mouvement important de relocalisation et de diversification des investissements français vis-à-vis de la Chine. Et cette évolution se traduit notamment par des implantations françaises en Inde de plus en plus solides. on compte aujourd'hui 750 entreprises françaises en Inde qui emploient en tout 250 000 personnes.
Alors on comprend le fait que François Hollande ait choisi l'Inde comme premier voyage officiel en Asie illustre ce lien économique croissant entre la France et cette partie de l'Asie.
Oui, et même si, certes, ce fut une visite éclair, l'État indien n'a pas eu l'impression d'avoir été traité comme une Chine de deuxième ordre, selon les dires d'un des principaux représentants du patronat français.
Et stratégiquement, c'est bien ce qui compte, Mathilde. Mais au-delà des simples intérêts économiques, importants ou demeurants dans un contexte où la question du commerce extérieur de notre pays est plus que jamais un sujet brûlant, François Hollande a voulu, par ce voyage en Inde, renforcer les relations politiques et diplomatiques que les deux pays entretiennent déjà. Et il faut d'abord souligner que les accords en question n'auraient évidemment pas vu le jour sans des échanges sereins préalables, eux-mêmes relatifs à des accords, des soutiens, des prises de position communes entre l'Inde et la France.
Exactement. La France s'en est fait battue pour que l'Inde ait accès au nucléaire civil et elle soutient la candidature de New Delhi à un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Les deux pays collaborent également dans la lutte antiterroriste. Le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, présent lors du voyage, a insisté sur la volonté française de continuer à favoriser la place de l'Inde sur la scène internationale. Il est même allé jusqu'à qualifier l'Inde de la plus grande démocratie du monde.
Et cette expression pleine d'emphase du ministre à propos de l'Inde n'est évidemment pas anodine, Mathilde.
Le gouvernement français actuel sait qu'il doit se faire apprécier par les dirigeants indiens qui voyaient d'un bon œil Nicolas Sarkozy. Les deux visites effectuées par l'ancien président en 2008 et en 2010 avaient en effet stimulé les relations franco-indiennes. Il s'était engagé à doubler en 5 ans les échanges commerciaux entre les deux pays et avait lui aussi porté haut et fort l'ambition indienne d'accéder au statut de membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies.
Alors si on résume, confirmer des engagements stratégiques, mais surtout rassurer, puisque le début du mandat de François Hollande n'a pas immédiatement mis en confiance le pouvoir politique indien, loin s'en faut.
Oui, tout d'abord, peu après l'élection du nouveau président socialiste, Paris a annoncé le retrait des troupes françaises de l'Afghanistan, une décision mal vécue par New Delhi, qui s'inquiète d'une retalibanisation de l'Afghanistan après le départ des troupes occidentales.
Mais surtout, Mathilde, l'image du gouvernement français a été ensuite affaiblie avec l'affaire Montebourg-Mittal, qui a éclaté à la fin de l'année dernière.
La communauté indienne des affaires s'est dite profondément choquée par la polémique autour de la nationalisation des hauts fourneaux de Florange, propriété de l'Indien Lakshmi Mittal. À ce titre, il est intéressant de remarquer qu'Arnaud Montebourg, bien que ministre du redressement productif, n'a pas été convié à ce voyage. En voulant renforcer les relations avec l'Inde, François Hollande a aussi pris soin d'éviter de réveiller les vieux démons.
Alors cependant, alors que le président commençait sa visite diplomatique le jeudi 14 février, Arnaud Montebourg, lui, était invité dans la matinale d'Europe 1. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas changé d'un iota, ni sa ligne, ni son ton. Malgré la visite de François Hollande en Inde, il a maintenu la position ferme qu'il avait affirmée en novembre 2012 vis-à-vis de l'industriel indien. Et on l'écoute d'ailleurs au micro de Caroline Roux.
Je ne considère pas que mes propos aient été excessifs au regard des méthodes abusives de la famille Mittal. Je rappelle qu'ils sont l'auteur d'une OPA agressive sur l'acier européen détenu par Arcelor. Ils nous ont jamais demandé l'autorisation et même le ministre de l'économie de l'époque, M. Thierry Breton, du gouvernement de Jacques Chirac, s'en était ému et a soutenu ma position. Donc je voudrais vous dire, madame, que les dégâts causés aujourd'hui sur mes propos, c'est surtout sur le moral de M. Mittal, qui ne peut pas aujourd'hui se comporter n'importe comment.
Arnaud Montebourg qui en a profité pour rappeler que Lakshmi Mittal est en réalité plus européen qu'indien, puisqu'il ne possède pas de groupe en Inde et a officiellement le statut de résident britannique.
Alors à l'instar d'Arnaud Montebourg, c'est Najat Vallaud-Belkacem qui a également été privé de voyage, Mathilde.
Oui, un temps envisagé, la présence dans la délégation de la ministre des Droits des Femmes n'a finalement pas été retenue. Au vu des affaires de viol qui ont fait le gros de l'actualité indienne récemment, sa venue aurait pu être interprétée comme stigmatisante.
Prudence, donc, du côté de François Hollande lors de sa visite en Inde, ce qui montre bien les enjeux diplomatiques et géopolitiques qui priment sur l'enjeu économique ou militaire.
Certes, les bonnes relations politiques sont indispensables à des échanges économiques fructueux. Seulement, on ne va pas qu'en Inde pour vendre des avions. Derrière cette vente potentielle, c'est la volonté plus profonde de rétablir de l'équilibre dans les relations géopolitiques mondiales. Dans le triangle des géants, que sont l'Afrique, la Chine et l'Inde, cette dernière apparaît comme la clé d'un monde multipolaire. Si la France doit entretenir de bonnes relations avec l'Inde, c'est donc avant tout pour construire avec elle sans néocolonialisme ni mépris, une alliance solide entre l'Inde, la Chine et l'Afrique, de façon à maintenir les équilibres mondiaux.
Inde indispensable, un sujet réalisé par Mathilde Férez. Merci Mathilde.